France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Denis Diderot était sans doute le philosophe le plus audacieux des Lumières françaises et il nous occupe toute cette semaine. Aujourd'hui, nous évoquons l'encyclopédie, ce projet extraordinaire qu'il a codirigé dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Huit volumes, 17 d'articles et 11 d'illustrations commentées. 74 000 articles en tout pour lesquels ont été sollicités 200 savants. Voilà ce que c'est concrètement l'encyclopédie, cette immense œuvre collective dans laquelle se lance Diderot en 1750 avec son ami d'Alembert. Diderot rédige le prospectus, c'est-à-dire l'exposé même du projet. Il y écrit ceci: faisons donc pour les siècles à venir ce que nous regrettons que les siècles passés n'aient pas fait pour nous. Et Diderot d'évoquer alors l'extraordinaire bibliothèque d'Alexandrie, construite par Ptolémée en 288 avant Jésus-Christ, qui a disparu plusieurs siècles plus tard sans rien laisser derrière elle. Et il écrit: si ce manuscrit, c'est-à-dire l'encyclopédie, se fût échappé seul de cette fameuse bibliothèque, alors il eût été capable de nous consoler de la perte des autres. C'est donc une mémoire exceptionnelle du savoir des humains de son temps que Diderot désire matérialiser pour transmettre, et ce tout en reconnaissant que ce savoir n'a rien de définitif et qu'il changera donc à l'avenir. Mais pour Diderot et d'Alembert, puis pour Jaucourt, qui remplacera d'Alembert en 1759 dans le travail sur l'encyclopédie, le chemin sera rude. Et les obstacles énormes, parce que beaucoup d'articles vont choquer la morale religieuse de l'époque. Nous allons ce matin retracer toutes les étapes, toutes les difficultés, avec deux spécialistes hors pair de ce geste philosophique exceptionnel que constitue l'encyclopédie de Diderot. Bonjour Marie Le Katsiomis. Vous faites partie des membres fondateurs du projet qu'on appelle l'édition numérique collaborative et critique de l'encyclopédie, qui met en ligne depuis quelques années l'encyclopédie de Diderot. Cela fait plus de 30 ans que vous l'étudiez. Vous avez produit beaucoup de travaux à son sujet et vous avez trouvé encore 1300 articles rédigés par Diderot qui n'ont jamais été publiés. Vous nous expliquerez. Et bonjour Caroline Jacot-Grappa. Vous faites partie des éminents spécialistes de Diderot, invités dans notre série de cette semaine. Vous nous aiderez, vous aussi, à comprendre ce projet magnifique de l'encyclopédie. Les références de vos travaux à toutes deux sont sur notre site.
Monsieur Keller, Monsieur Diderot, je vous salue et vous félicite pour votre magnifique travail.
Je vous remercie. Votre appui, madame, a été des plus précieux.
Je ne suis rien devant votre génie. En répertoriant tous les savoirs de notre siècle, votre encyclopédie va bouleverser le monde.
Mes amis, buvons à cette encyclopédie.
Vous venez d'entendre un extrait du téléfilm de Robin Davies de 2006, Jeanne Poisson, marquise de Pompadour. Extrait où la marquise de Pompadour, amante du roi Louis XV, exprime sa joie devant le projet de l'encyclopédie qu'elle a, semble-t-il, beaucoup aidée. Pourtant, à peine deux ans plus tard, en 1752, patatras, un arrêté royal ordonne l'interdiction de l'ouvrage et concrètement la suppression des deux premiers volumes déjà publiés. La même marquise de Pompadour semble furieuse et le dit à Louis XV.
Louis, tu ne peux apprécier l'esprit de Monsieur Voltaire un soir et enfermer le lendemain Monsieur Diderot. Il fait partie des hommes de lettres les plus brillants de notre siècle.
Diderot alimente l'esprit de révolte et affaiblit mon autorité. Il oublie qu'il n'y a qu'une devise dans notre pays.
Un roi, une foi, une loi.
Comment as-tu pu signer une lettre de cachet contre lui? Cet emprisonnement est indigne de toi.
Mais c'est ce Diderot qui est indigne. Il a commis une faute irréparable. Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Ce monsieur ose y prétendre que Dieu n'existe pas.
Cet ouvrage est anonyme.
Ainsi donc tu l'avoues. Tu lis des textes séditieux. Mais dans quel camp es-tu, Jeanne? Si Diderot pense que Dieu n'existe pas, alors je n'existe pas. Et le royaume de France non plus.
Oui, tu me fais mal.
Tes amis sont devenus mes ennemis. Tu dois abandonner Diderot et toutes ces idées dangereuses pour le royaume. Fais-le pour moi et pour notre enfant.
Jamais.
Alors, nous allons essayer de comprendre ce premier obstacle de taille que rencontre l'encyclopédie en 1752. Mais d'abord, évidemment, j'aimerais savoir s'il est exact que la marquise de Pompadour a eu une influence importante en faveur de cette encyclopédie, Marie Le Cat Siomis. Est-ce exact?
Je pense que c'est exact. Je ne saurais pas vous dire quelle a été l'ampleur de cet appui. Mais en tout cas, il est certain qu'elle était du côté des encyclopédistes, comme d'ailleurs nous l'a montré le grand pastelliste Latour. Si vous allez voir le portrait de la marquise de Pompadour qui est au Louvre, superbe, vous verrez qu'elle est assise à côté des volumes de l'encyclopédie. Tout ça n'est pas par hasard.
Bon,
donc elle a bien compris. Sûr, elle a aidé. Oui,
elle a aidé. Et elle était furax en 1752, quand on l'a interdit.
Probablement, oui. Et elle est certainement intervenue. De quelle façon, nous l'ignorons. Mais d'accord. Il est certain qu'elle comptait parmi les gens qui ont soutenu l'entreprise encyclopédique.
Caroline Jacot-Grappa, il y a un point historique qui compte, y compris ensuite dans la manière d'écrire. C'est l'époque de la censure. La censure, c'est très simple. C'est une assemblée de gens qui décident des ouvrages qui peuvent se publier ou non. Est-ce qu'il a fallu solliciter en amont un accord, la censure est dirigée à cette époque-là par Malesherbes, ou bien c'était une initiative privée, Diderot et d'Alembert ont commencé l'encyclopédie, et puis après la censure a repris la main, si je puis dire. C'est une question historique que je vais reposer quand même à Marie Le Cat Siomis. On va parler du contenu ensuite, dont vous êtes une spécialiste, Caroline Jacot-Grappa.
Écoutez, l'affaire de la première interdiction de l'encyclopédie, sur laquelle je pense vous vous intéressez.
Et avant, je voudrais savoir si avant ils avaient dû demander l'autorisation. Voilà, c'est ça.
Mais de toute façon, tout ouvrage publié à l'époque est publié avec privilège.
Donc on doit demander.
Ah ben bien sûr.
D'accord.
Et vous demandez l'autorisation. Ah ben bien sûr.
D'accord.
Et c'est inscrit, le privilège normalement est inscrit et publié à la fin du volume. Curieusement, pour l'encyclopédie, le privilège n'a jamais été publié. Il n'en reste pas moins qu'il existe, bien sûr, et qu'il a été suspendu deux fois.
Alors, 52, c'est par le roi. Il faut dire que...
C'est toujours par le roi.
Oui, bien sûr. Mais je veux dire, le pape est intervenu la deuxième fois.
Oh, il est intervenu après tout le monde, le pape, en 58, 59. Une fois que le décret royal a été pris, c'est-à-dire l'interdiction de l'ouvrage, le pape a rajouté la sienne, condamnation, papale, etc.
Donc là, c'est en 1759. Mais alors, pour quelle raison l'arrêté royal de 1752 a fini par être annulé? Est-ce grâce à Malesherbes?
Oui, c'est-à-dire... très certainement. Vous savez, ce qui a permis au pouvoir royal d'interdire une première fois, c'était la campagne qu'ont menée les jésuites et les jansénistes, qui étaient donc le bras intellectuel, religieux, armé à l'époque, et qui ont condamné une thèse qui avait été soutenue à la Sorbonne. N'oubliez pas que la Sorbonne, à l'époque, est la faculté de théologie.
Oui.
Donc, ils ont attaqué une thèse de l'abbé de Pratt, qui était un collaborateur de l'encyclopédie, et ils ont tenté de prouver que cette encyclopédie était véritablement un repère d'hérétiques. Alors, ça a pris, effectivement, et l'encyclopédie a donc été interdite en 52. Mais grâce à Malesherbes...
C'est-à-dire,
et à d'autres...
qu'est-ce qu'il a fait, Malesherbes?
Alors, Malesherbes était le directeur de la librairie.
Oui.
Nous n'en avons plus, mais enfin, autrefois, ça pouvait s'appeler, je ne sais pas quoi, ça pouvait s'appeler le ministre de la Culture, par exemple.
D'accord.
Non, c'est une institution qui est liée, effectivement, au privilège. Et Malesherbes a toujours été un défenseur de l'encyclopédie, un défenseur en sous-main, parfois, de façon même extraordinairement clandestine. N'oublions pas que Malesherbes, probablement en 58, a dit à Diderot de cacher, puisqu'il allait y avoir une perquisition des volumes en état de préparation, et il a dit à Diderot d'aller cacher les papiers que ses propres sbires avaient pour charge de ramasser.
Comme ça, on les a sauvés.
Et on les a sauvés grâce à l'intervention de Malesherbes, qui les a fait, évidemment, conserver dans sa propre cave.
Mais c'est incroyable. Ça veut dire que le directeur de la censure est contre la censure, qu'il est obligé de prononcer à cause du roi.
Vous avez raison, ce sont les contradictions de l'Ancien Régime. elles sont passionnantes à étudier, mais vous avez raison, c'est une des contradictions importantes. Et il est certain que si l'encyclopédie a vu le jour, finalement, en 1772, quand tout a été terminé, c'est très largement grâce à l'aide secrète, mais à l'aide de Malesherbes. Ah
oui. Est-ce parce qu'il était botaniste, cultivé en sciences, que Malesherbes avait une tendresse toute particulière pour cette entreprise qui est notamment scientifique, de synthèse des sciences de l'époque?
Certainement, c'est un homme de très très grande culture, Malesherbes. Je ne sais pas si le fait d'être botaniste a joué, mais il est tout à fait possible, envisageable, que ça ait joué effectivement un rôle important. Ce qui est certain, c'est que c'était un homme de culture et qui a toujours défendu une vision de l'encyclopédie comme pourvoyeur du savoir et pourvoyeur de connaissances. Et il avait été aussi très très interpellé au tout début de l'encyclopédie par une... par une discussion qui avait eu lieu entre Diderot et le chancelier, c'est-à-dire son prédécesseur. Hein. À l'époque, en 47, à l'époque, ou 48 peut-être, à l'époque où l'encyclopédie n'est pas encore publiée, et dont il raconte plus tard que le chancelier, en écoutant Diderot, a été convaincu.
Ah oui. Bon, alors j'ai encore une question. Oui, je vous en prie. Parce qu'évidemment, donc après 1759, c'est terminé, c'est interdit, même si Malesherbes prévient à temps Diderot pour qu'il sauve les manuscrits. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Ils arrêtent de travailler ou ils continuent tous à travailler d'Alembert Diderot? Ils suscitent des articles et l'encyclopédie existera entièrement jusqu'à la lettre Z et où se trouvera-t-elle? Sera-t-elle diffusée clandestinement? Comment? Là, j'ai plein de questions.
Oui, non, mais je vais vous répondre, c'est relativement facile. Ah. Elle va se poursuivre clandestinement puisque Malesherbes, dans sa situation de protecteur, a permis que l'on continue l'ouvrage pour publier les volumes qu'on appelle les volumes de planches, c'est-à-dire les illustrations. Vous en avez dit un mot tout à l'heure.
Oui.
Et donc, les volumes de planches font paraître de façon tout à fait...
Les illustrations, ce que vous appelez les planches.
Les planches.
Ce sont des dessins.
Pardon ?
Ce sont des gravures. Des gravures,
ce sont dessins. Alors, dessins et gravures. Oui, ce sont des gravures. Et elles vont paraître sans nom d'auteur. Il n'y a plus aucune mention ni de Diderot ni de personne d'autre. Elles vont paraître et elles seront vendues ou distribuées aux différentes personnes qui avaient demandé à être faire partie de la distribution de l'encyclopédie, c'est-à-dire de...
Donc il y a beaucoup de gens, Caroline Jacquot-Grappa, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, qui travaillent pour l'encyclopédie. C'est interdit, mais ça existe. On y travaille, on grave, on fait des dessins. Et ce qui nous permet aussi de dire que c'est une œuvre tout à la fois de savants, de philosophes, d'écrivains et de graveurs, d'artistes.
Alors, juste une petite chose aussi, c'est que D'Alembert, entre-temps, a quitté le navire quand même. On a oublié de le dire.
J'avais pas oublié, mais je voulais y aller.
Non, je vous dirais simplement parce qu'on a dit on continue de manière clandestine, mais entre-temps, voilà, il y a donc les équipes se reformatent en quelque sorte.
Puisque vous y allez tout de suite, pourquoi alors? Pourquoi il quitte le navire?
Je pense que l'idée de l'interdiction a été vraiment quelque chose de très important pour lui. Enfin, qu'il n'a pas voulu continuer. Enfin, je pense qu'il était académicien, il était dans ces rouages-là, et que l'idée de d'œuvrer pour une entreprise qui est colossale et en même temps, enfin voilà, interdite, enfin sous le joug de possible de la censure, de problèmes, d'auto-censure, de toutes sortes de choses.
Il était plus gêné que Diderot par cette situation.
Bah Diderot, enfin oui, manifestement, lui, il a dit on y va, on est parti, on y va quoi. Il y avait déjà eu des volumes de publiés quand même, donc.
Et qui est ce Jaucourt, éditeur, qui va donc en quelque sorte remplacer D'Alembert auprès de Diderot? Qui est-il?
Alors, le remplacer, je ne sais pas exactement dans quelle mesure, mais enfin, Jaucourt, c'est un contributeur phénoménal de l'encyclopédie. Il a écrit des milliers d'articles lui aussi. ce qu'il était. Je crois que Marie va peut-être détailler un peu, enfin parce que c'est pareil, c'est des gens qui ont un savoir extraordinaire, qui puisent aussi à toutes sortes de sources, enfin qui sont aussi des compilateurs infatigables en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose d'incroyable et qui est maintenant considéré comme le troisième en effet contributeur, enfin dans le site, sur le site de Encre, le Jaucourt est indiqué aussi, c'est Diderot, d'Alembert et Jaucourt.
Vous donc, voulez en dire un mot de Jaucourt, Marie Leca Thiumi, s'il vous plaît.
Volontiers. Jaucourt était un autodidacte, mais qui était médecin de formation. Il a fait ses études avec Tronchin, Théodore Tronchin, le grand médecin de Genève, et il a participé à l'encyclopédie. Il a lui-même écrit à Diderot en disant qu'il souhaitait participer à cette grande œuvre. Au volume 2, voyez. Et donc, il a continué. Alors, Jaucourt s'est pas du tout occupé des planches, en tout cas, notre connaissance. Mais, en revanche, il s'est occupé énormément des volumes de discours. Et donc, du dictionnaire, proprement dit. C'est lui qui a d'ailleurs écrit le dernier article de l'encyclopédie. Il a l'article Juéné, 2Z, vous voyez. Bon, là, on était sûr d'être...
Par ordre alphabétique.
Ah oui, bien sûr. Alors ça, c'est un point important. L'encyclopédie a été publiée par ordre alphabétique. Donc, le premier volume, c'est la lettre A. Deuxième volume, tome 2, volume 2, c'est la lettre B et un début de C, etc., etc. Et quand l'encyclopédie est définitivement interdite en 58, 59 si vous voulez, on est à la lettre H. Mm-hmm. Enfin, on a publié la lettre G. Oui. Autrement dit, il manque la moitié, beaucoup plus de la moitié de l'alphabet. Et c'est cet ancrage, enfin cette force, de cette énergie que déploie Diderot pour aller jusqu'au bout, est liée, entre autres, au fait qu'on est dans l'absolu abandon d'un travail qui n'a plus de sens. Vous arrêtez un dictionnaire à la lettre G.
Mais vous venez de me dire qu'on ne l'a pas arrêté, en fait. Donc...
Non, mais justement, je prenais simplement l'idée que ça pouvait représenter pour quelqu'un comme Diderot. Avant ce que Caroline vient de rappeler, ce que Diderot appelle la désertion de D'Alembert.
Je suis navrée, on vous a coupé tout à l'heure, Caroline Jacquot-Grappa. On était en train de parler des gravures, des images, des planches. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus dans l'encyclopédie?
Dans le détail, j'avoue que je ne suis pas tellement spécialiste de cette matière-là, mais ce qui est certain, c'est que il y a tout cet appareil de planches dont Roland Barthes, à une époque, enfin, avait repéré certains trucs de cadrage où on voit les mains des ouvriers, enfin, donc toutes ces planches-là, enfin, il y a beaucoup de planches qui représentent, enfin, le travail des artisans, le travail des artistes, pas seulement les outils séparément. Enfin, donc c'est des planches qui sont aussi très très animées de la vie laborieuse de l'époque et qui donnent un sens justement à un dictionnaire des sciences et des métiers. Donc où il y a vraiment, donc c'est parmi les contributeurs, il y en a un qui par exemple va revenir comme personnage dans Jacques le Fataliste, qui est Gousse. Goussier. Enfin le oui. Goussier, mais Gousse dans Jacques. Mm-hmm. Des gens qui manifestement, enfin qui avaient vraiment, enfin qui ont été happés par l'entreprise, quoi. Et puis Diderot a surveillé. Enfin, je crois qu'il a vraiment. C'est pas une légende de dire qu'il est allé vraiment dans les ateliers aussi pour faire prendre des dessins, pour se renseigner vraiment sur la matière même du vivant et du travail réel que faisaient les gens.
Alors je précise que nous parlerons demain, dans le quatrième épisode de cette série, de Jacques le Fataliste, ce roman de Diderot. Alors nous parlons ce matin de l'encyclopédie. Il y a beaucoup à dire et à admirer dans cette œuvre, en partie clandestine, comme vous venez de nous l'expliquer, Marie Leca Thiumi et Caroline Jacquot-Grappa, mes invités de ce matin. Quel est le projet philosophique derrière l'entreprise de l'encyclopédie? Revenons à ce point, à cet enjeu, et pour cela, écoutons, pour commencer, l'éditeur Claude Tchou, qui en parlait en 1970 sur l'ORTF.
Je crois que l'idée première, si vous voulez, de l'encyclopédie ne revient pas à Diderot, mais à Le Breton. Le Breton était un éditeur assez extraordinaire, dont on ne parle pas assez d'ailleurs. Et vous vous rappelez qu'en 1728, en Angleterre, apparut l'encyclopédie de Chambers, qui était pour l'époque une véritable révolution. Et Le Breton s'est procuré les droits du Chambers, avec simplement le dessein de traduire Chambers. Et Diderot a persuadé Le Breton qu'il fallait, au lieu de faire une traduction, faire quelque chose tout à fait original. Et c'est là qu'est née l'encyclopédie française, la grande encyclopédie, qui est évidemment bien supérieure au Chambers. Alors par la suite, Diderot a réuni une équipe, dont D'Alembert. Ils ont pillé, ils ont commencé par piller. Ils ont pillé le Chambers, ils ont pillé des quantités de choses existantes. Ils ont pillé notamment le dictionnaire encyclopédique de l'Académie. Vous savez qu'il y a eu toute une accusation de plagiat à ce sujet. Et puis ils ont quand même fait une œuvre originale extraordinaire. Ça demeure extraordinaire. Ça reflète tout l'esprit de l'époque, avec des précautions. Mais enfin, c'est quand même la première tentative synthétique de la mise en système de la philosophie du XVIIIe. C'est-à-dire la raison contre la tradition, le modernisme contre l'obscurantisme et finalement toute une volonté de progrès.
Raison, système, modernisme, progrès, des mots importants sont lâchés là par Claude Chou. Vous approuvez, Caroline Jacot-Grappa, ces mots pour parler de l'encyclopédie ?
L'idée de système est un peu étrange, en fait, parce que, bon, bien sûr qu'au départ, enfin, il fallait, comme dit Diderot dans l'article encyclopédie, il faut de l'ordre. On ne peut pas simplement commencer de manière empirique à enfiler les perles de l'alphabet. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, il faut savoir un peu, il faut organiser les choses. Donc, il y a un arbre de la connaissance. Enfin, ils ont organisé les différentes branches du savoir, de la pratique, des arts mécaniques, des arts libéraux, etc. Bon. Mais que ça fasse système, c'est compliqué parce que, comme il le dit aussi, enfin, ils sont très nombreux à participer. On peut pas contrôler l'esprit, l'écriture de tout le monde, même si on relit les textes. Enfin, chacun a ses visions, a ses façons de faire. Et puis tous les articles de l'encyclopédie ne sont pas des articles révolutionnaires ou qui sont. Alors bon, il y a les emprunts d'une part, et puis il y a justement ce qui va être l'apport aussi propre, en particulier de Diderot, de toute évidence. Qui va être aussi d'instaurer des modes d'écriture aussi très, très nouveaux et parfois très inattendus dans les articles de l'encyclopédie.
Marie Le Catiomis, Claude Chou nous dit qu'il y a eu des pillages, qu'il y avait déjà une encyclopédie anglaise éditée par Ephraim Chambers en 1828, que Diderot aurait puisé des idées et des éléments, des matériaux ailleurs. Il ne faut pas oublier que l'Angleterre et la France ont une sorte de rivalité au XVIIIe, bien étudiée notamment par Philippe Reynaud dans son livre qui s'appelle « La politesse des Lumières ». Ça compte cet arrière-plan, historiquement, dans la démarche de Diderot ?
Alors, ce qui compte, c'est ce que disait Chou, c'est-à-dire le point de départ, la traduction d'un ouvrage à succès, l'ouvrage anglais, qui sert de point de départ. Mais c'est à peu près tout. Ou plus exactement, si je suis tout à fait honnête concernant ce travail de Chambers. Donc, le travail de Chambers, c'est deux petits volumes qui s'intitulent « Universal Dictionary of Arts and Sciences ». Dictionnaire universel. Or, pour comprendre l'arrivée de l'encyclopédie dans l'affaire et celle de Chambers notamment, il faut replacer tout ça dans l'histoire, une histoire toute neuve à l'époque. Dans l'histoire des dictionnaires universels. Quand Diderot et D'Alembert commencent l'encyclopédie, il n'y a que 60 ans que les dictionnaires monolingues existent. On ne connaît pas le dictionnaire précédemment. On n'a que des dictionnaires polyglottes, c'est-à-dire un mot, sa traduction en latin, en anglais, en japonais, je plaisante, en italien, en latin, tout ce que vous voudrez. C'est la première fois en 1700, pas là, je suis plus dans mon siècle, en 1690, qu'on publie un dictionnaire qui s'appelle Dictionnaire universel des sciences, des arts, des métiers, etc., etc.
Et d'ailleurs, moi-même, j'ai dit 1828, bien sûr que c'est 1728. Chambers, on se mélange les pinceaux. Là.
Voilà. Et donc, Chambers fait ce qu'il peut. Il fait un petit dictionnaire qui est tout à fait, qui a du succès, mais qui n'a rien à voir avec ce que va devenir l'encyclopédie entre les mains ou sous les yeux de Diderot et de D'Alembert, rien du tout. Et notamment parce que le travail de Chambers est un travail terminologique. Je sais pas, la différence, on peut la faire entre ce qu'on appelle un ouvrage terminologique et un ouvrage encyclopédique ou un ouvrage universel. C'est-à-dire que dans le dictionnaire de Chambers, il n'y a pas de mots pour traduire les termes de la langue.
Alors justement, merci d'aborder ce point, oui. C'est une transition parfaite. Il se trouve que dans l'encyclopédie, il y a un article qui s'appelle Encyclopédie, où Diderot explique finalement ce qu'il a voulu faire et ce qu'il concevait par encyclopédie. Et justement, il dit dans cet article à quel point nommer les choses est un enjeu. Et d'ailleurs, c'est un enjeu du nominalisme aussi, qui est une vaste réflexion théologico-philosophique. Et en ce qui le concerne, eh bien, voilà ce qu'il écrit dans cet article Encyclopédie. On écoute.
La connaissance de la langue est le fondement de toutes ces grandes espérances. Elles resteront incertaines si la langue n'est fixée et transmise à la postérité dans toute sa perfection. Et cet objet est le premier de ceux dont il convenait à des encyclopédistes de s'occuper profondément. Nous nous en sommes aperçus trop tard. Et cette inadvertance a jeté de l'imperfection sur tout notre ouvrage. Le côté de la langue est resté faible. Je dis de la langue et non de la grammaire. Et par cette raison, ce doit être le sujet principal dans un article où l'on examine impartialement son travail et où l'on cherche les moyens d'en corriger les défauts. Je vais donc traiter de la langue, spécialement et comme je le dois. J'oserais même inviter nos successeurs à donner quelque attention à ce morceau. Et j'espérerais des autres hommes, à l'usage desquels il est moins destiné, qu'ils en avoueront l'importance et qu'ils en excuseront l'étendue.
Caroline Jacot-Grappa, je vous laisse commenter ces phrases assez célèbres sur les difficultés, les enjeux autour de la langue qu'évoque Diderot.
Je dis de la langue et non de la grammaire, hein, parce qu'il considère que sur le plan de la grammaire, bon, il y a eu Bauzet, Dumarsais, enfin, il y a de nombreux contributeurs très importants. Il considère que de ce côté-là, ça s'est bien passé. Mais la langue, c'est autre chose, parce que la langue, c'est quelque chose de mouvant, c'est quelque chose que les uns et les autres s'approprient. C'est la langue des métiers aussi, c'est les néologismes, c'est tout ce qui arrive dans la langue, les métaphores que les uns et les autres vont inventer. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, voilà. Comment est-ce qu'une encyclopédie ou dictionnaire raisonné va pouvoir rendre compte de cela? Et en même temps, c'est aussi les discours, enfin la manière dont les gens parlent, parce que d'un article à l'autre, l'expression va être différente, on ne peut pas unifier tout ça, donc c'est un problème extrêmement complexe et ancré à la fois dans le sens du contemporain, de l'actuel, de la modernité. Pour lui, et en même temps prendre en compte tout ce que la langue a charrié de mémoire. Hein, il dit, nous avons eu des contemporains sous Louis XIV. Enfin, donc c'est à la fois prendre en compte le passé, le présent, et en effet pouvoir parler et transmettre quelque chose au futur, enfin, à l'avenir, à ses neveux, comme il dit.
Mais y a-t-il un peu des mots prétextes, je veux dire, pour que Diderot, qui écrit énormément dans cette encyclopédie, puisse développer sa pensée. Je pense par exemple, premier volume, la lettre A, Acmella. Acmella, et c'est l'occasion pour Diderot d'évoquer la circulation entre les substances animales et les substances végétales, en fonction d'ailleurs de son idée matérialiste du monde. Telle plante, en mourant, on peut donner des molécules, il le dit clairement, qui produiront ensuite des animaux. On a vraiment l'impression que voilà, pourquoi Acmella? Il fallait trouver quelque chose qui était l'occasion de raconter philosophiquement ce qui comptait pour lui.
Oui, enfin, des occasions, des prétextes, mais aussi parfois des mots complètement inutiles. Enfin, il fait entrer aussi bien, enfin, aux deux extrêmes, enfin, des mots dont il se moque lui-même. Ça, c'est Marie qui avait repéré ce genre de... c'était Aguapa, ou je ne sais plus...
Aguapa, oui, on peut parler.
Ça veut dire quoi, d'ailleurs, Aguapa, Aguapa?
Écoutez, oui, bien sûr.
Ça n'a pas d'importance, dit Diderot. On s'en fiche.
Vous voyez, c'est des prétextes, oui.
Non, alors, ce ne sont pas des prétextes. Je ne prends pas du tout la chose comme vous. Ou plutôt, on peut s'amuser à dire que ce sont des prétextes. Mais pour écrire un dictionnaire, et c'est ça qui me semble important aussi à dire quand on pense à l'encyclopédie, il faut partir de ce qu'on appelle une nomenclature. Si vous voulez écrire un dictionnaire demain matin, vous n'allez pas vous dire à quoi vais-je penser. Vous allez partir d'un dictionnaire préexistant. Il n'y a pas de dictionnaire qui se fasse sans un dictionnaire. Il y en a toujours un dessous, comme disait joliment Saussure. Donc,
on prend telle plante, on pourrait prendre telle...
Non. On prend tel dictionnaire et on écrit, on a une trame d'articles et on écrit en fonction de ce que cette trame nous propose.
D'accord.
On peut choisir de remplir la trame ou de l'ignorer. Mais là, Diderot travaillait, alors on va en dire juste un mot très vite, Diderot a beaucoup travaillé grâce à la nomenclature d'un grand dictionnaire français à l'époque qui s'appelle le dictionnaire de Trévoux. Et il trouve dans Trévoux, Acmella, Aguaxima, dont on parlera si vous avez deux minutes tout
mais
à l'heure.
Allez-y. Mais
c'est passionnant.
Oui. Cette encyclopédie est une encyclopédie et pas un dictionnaire, mais elle est fabriquée comme un dictionnaire.
Ça n'est pas une encyclopédie, le mot n'existe pas. Je suis désolée de vous le dire, je vais vous embêter en vous disant... Bah, bien sûr. Si vous cherchez le mot encyclopédie, vous vous rendrez compte que le mot encyclopédie n'existe pas depuis Rabelais, qui est le premier à l'avoir employé, et que encyclopédie, à l'époque, ne signifie pas du tout un livre, ça signifie la science universelle. Et quand le Trévoux, qui est le grand dictionnaire qui précède l'encyclopédie, doit définir le mot encyclopédie, il vous dit pas livre qui contient je ne sais quoi, il vous dit science universelle. Et Diderot, évidemment, s'est bien gardé de définir, lui, le mot encyclopédie comme étant la science universelle. C'est la première fois que le mot encyclopédie prend le sens de livre.
Et donc de dictionnaire ?
Eh ben oui. Dictionnaire, vous savez, vous connaissez le titre de l'encyclopédie. Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Ils ont oublié de dire de la langue, mais ça remonte à l'explication en est.
D'accord.
Dans le fait qu'au départ, ils avaient comme modèle Chambers. Ils ont évolué. Si vous voulez, l'encyclopédie est quelque chose qui a été, c'est un chantier.
Oui.
Ça n'a jamais été terminé. C'est pour ça que Diderot voulait le refaire. Diderot, en 72, n'avait qu'une idée quand il est parti voir la tsarine de Russie. C'était de refaire l'encyclopédie. Il considérait que cet énorme, ce monument, comme vous dites, était un monument précaire, où il manquait énormément de choses. Évidemment, il y a la question de la censure, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu aussi qu'au fur et à mesure qu'il travaillait, Diderot, c'est l'homme de l'expérience, d'un savoir qui se façonne grâce à l'expérience des choses. Et il avait l'expérience de l'encyclopédie, il était prêt à la refaire.
Alors, en même temps, le choix des... Vous voulez ajouter quelque chose, peut-être?
Non, c'est-à-dire que malgré tout, il y a quand même une différence de typologie, forcément, dans l'écriture même des textes, parce que certains articles sont des articles de dictionnaire, j'allais dire classique, enfin lexicologique, en quelque sorte, qui travaillent sur les synonymes, ce genre de choses, alors que d'autres, évidemment, sont beaucoup plus développés, quelquefois font des pages et des pages. Enfin, c'est des articles extrêmement considérables qui n'ont rien à voir avec une entrée de dictionnaire, enfin... Oui. Tel que nous, on l'entend, enfin, ou à la rigueur, peut-être d'un grand Larousse, ce genre de choses.
Oui,
chose,
oui.
Donc,
Il y a forcément des choix, vous êtes d'accord, quand même?
Bien sûr qu'il y a des choix. Et il y a parfois des prétextes, c'est certain, parce qu'il y a tout un système de renvoi d'un article à l'autre. Donc, il y a des chaînes aussi qui permettent, à partir d'un article, parfois... qui peut paraître insignifiant, nous emmener vers tout autre chose, ou bien des articles, j'allais dire, qui construisent, enfin, qui font partie d'un imaginaire, mais ça peut-être on en parlera plus tard.
Alors peut-être pas tout de suite de l'imaginaire, mais d'abord des engagements philosophiques et politiques de Diderot qui sont très clairs. Donc dans le volume de la lettre A, il décide de faire une entrée autorité politique. Ça n'est pas neutre. Il faut savoir que à l'époque. Tout le monde savait ça, que dans l'épître aux Romains de Paul, au chapitre 13, il est écrit que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui, ce qui veut dire que voilà, on ne peut pas désobéir aux autorités politiques du point de vue paulinien, chrétien. Eh bien, Diderot donne sa propre lecture de la notion d'autorité politique
Aucun homme, écrit-il, n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La puissance qui s'acquiert par la violence n'est qu'une usurpation. La puissance qui vient du consentement des peuples suppose nécessairement des conditions qui en rendent l'usage légitime. Car l'homme ne doit ni ne peut se donner entièrement et sans réserve à un autre homme. Le moins qu'on puisse dire, c'est que il fait de l'autorité politique quelque chose de conditionné, de limité, d'encadré. Ça n'a strictement rien à voir avec le propos paulinien, chrétien, ordinaire, qui est que, quelle qu'elle soit, même mauvaise, même impie en apparence, les autorités politiques sont voulues par Dieu et elles doivent être parfaitement obéies, dit Paul dans l'Épître aux Romains. C'est un exemple significatif, Caroline Jacot-Grappa, de l'engagement de Diderot, dangereux d'ailleurs.
Oui, bien sûr, parce que là, c'est vraiment là qu'on entend enfin l'aspect de machine de guerre, comme l'a dit Gérard Steinger, contre l'ancien régime. Parce que, évidemment, que si personne ne détient cette autorité par nature, ça veut dire que voilà, on entre dans un. Dans un système de légitimation tout autre que celui auquel vous avez fait référence et qui évidemment concerne au premier chef l'idée de monarchie absolue, de droit divin. Enfin, donc on est dans un tout autre modèle de définition et de redéfinition de l'autorité.
Un combat, a dit un grand historien du XXe siècle, Lucien Febvre. Je vous propose de l'écouter. À présent, c'est joli, c'est émouvant, c'est une archive de Lucien Febvre de la RTF de 1949.
Qu'est-ce que c'est que l'encyclopédie ? C'est beaucoup de choses. C'est, dans la Vulgate, une œuvre de combat, essentiellement. C'est vrai, elle a été dans la pensée de l'homme qui incarne, de ce grand Diderot. Elle a été, en effet, une arme de combat. Encore faudrait-il, je crois, bien préciser la nature du combat. Qu'est-ce qu'il voulait ? Il combattait pour la raison, et il combattait aussi, je crois bien, pour amener une espèce de concentration solidaire des sciences de son époque à un moment où, dans un monde en grand ébranlement, les sciences commençaient à s'émouvoir ou... On sentait déjà du côté de la chimie, par exemple, qui allait prendre le dessus, un grand mouvement qui était le précurseur d'une transformation scientifique importante. Et alors, l'encyclopédie nous apparaît un petit peu aujourd'hui, au moins en partie, comme la réalisation du vœu de toute une époque, en même temps que comme, en effet, une arme de combat contre les formes du passé, contre les puissances du passé.
Marie Leucate-Thiomis, je vous ai senti émue d'entendre Lucien Febvre comme ça.
Ah bah oui, bien sûr, c'est un beau, c'est un très bel hommage qu'il rend à l'encyclopédie. Et bon, c'est émouvant, tout à fait, et il a raison. Alors, je voudrais, si vous permettez, dans la suite de ce qu'a dit Lucien Febvre, revenir une seconde sur la question de la langue, justement. Puisque vous intéressez à cette question, nous avez posé la question de savoir ce qu'il fallait en comprendre de ce moment où Diderot revient dans son article Encyclopédie sur le travail mené. Je voudrais vous citer un texte de Diderot qui est assez connu, qui vient de la Réfutation d'Helvétius, et qui pose la question essentielle de qu'est-ce que la langue ? Que peut-on en dire dans notre... Il dit ceci, on est fataliste, vous allez en parler demain avec Colin Duflot, je pensais. Bon, on est fataliste, mais à chaque instant, on pense, on écrit, on parle, comme si on demeurait dans le préjugé de la liberté. Préjugé dont on a été bercé, qui a institué la langue vulgaire, celle que nous parlons, hein, sans nous rendre compte qu'elle ne correspond plus à nos opinions. Et le mot essentiel vient là. On est philosophe dans ses opinions et peuple dans ses propos. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le travail que va lancer Diderot dans l'encyclopédie, qui est passionnant, me semble-t-il, sera de définir les mots de la langue d'une double manière. D'un certain point de vue, les définir comme du point de vue des opinions philosophiques, on est fataliste, on va chercher le matérialisme, etc., et on va le trouver. Et d'un autre côté, il faut bien définir aussi, pour le vulgaire, c'est-à-dire pour nous tous, puisque nous continuons nous-mêmes, aujourd'hui c'est la même chose, de parler une langue à laquelle nous ne sommes pas censés donner notre appui. Et il prend un exemple qui est formidable.
Ça, c'est une démarche de philo, c'est-à-dire...
Mais c'est pas seulement. Non, pas seulement.
Pardon, je veux pas donner l'impression de réduire. Au contraire, je voulais juste suggérer que partir de la langue que l'on parle, la langue du peuple, et essayer de préciser les choses et les concepts qui se logent dedans et que nous ne voyons pas forcément tous les jours, ça, c'est vraiment une démarche philosophique extraordinaire.
C'est extraordinaire et ce qu'il y a de... J'insiste sur le fait que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Diderot mène les deux en même temps. Je vais vous en donner un exemple. L'article « naître », que signifie « naître », il faut bien définir le mot « naître ». Bon, alors il fait comme tout le monde, il fait comme son trévoux, « venir au monde ». « Venir au monde », écrit-il. Mais, à proprement parler, on ne naît point.
Mais parce qu'il est matérialiste, d'ailleurs, il expose sa propre théorie à ce moment-là.
Et évidemment, il expose une vision philosophique, ce qu'il appelle les opinions, qui n'a rien à voir avec... Oui. Bon, ce qui est important, c'est qu'il mène ce combat-là, ce double combat, rendre la langue, toute la langue intelligible, dit-il. Donc, il définit pour tout le monde, et il définit surtout pour l'époque où la langue va mourir, parce que Diderot est convaincu que la langue française, comme toutes les langues... Il écrit, la langue sera morte un jour. Bon, donc, il faut définir pour ce temps... Vous savez, vous parliez d'Acmella tout à l'heure, mais dans Acmella, il parle de nos neveux dans 10 000 ans. C'est très important. La question des destinataires de l'encyclopédie est essentielle. Oui. S'ils pensent à nos neveux dans 10 000 ans, il faut donc donner une possibilité pour ces neveux dans 10 000 ans de comprendre les présupposés d'une langue dont il livre, lui, en plein milieu du XVIIIe siècle, les traces et les significations.
Alors, naître, j'ai l'article sous les yeux. Donc, effectivement, il part de la langue ordinaire, venir au monde, et puis il ajoute... Un point qui vivait s'est accru, développé jusqu'à un certain terme par la juxtaposition successive d'une infinité de molécules. Et puis un jour, ça se termine, le végétal peut devenir de l'animal, l'animal du végétal, nos molécules iront ailleurs. Donc ce qui est magnifique, c'est que...
Le rêve de D'Alembert.
Ouais, voilà, dont on a parlé lundi. Donc c'est vrai que c'est... Il part vraiment des mots ordinaires et il introduit quand même sa conception. Et c'est d'ailleurs, sûr. Qui le lui reprocherait ? Enfin, je veux dire,
c'est ce qui est plus légitime.
Voilà. Alors, j'aimerais aussi, s'il vous plaît, qu'on termine cette discussion sur la porosité de l'encyclopédie aux idées de l'époque. Par exemple, l'article intolérance. Enfin, j'ai été frappée. C'est vraiment le redevable à Locke. Ça m'a paru évident, le combat anglais de John Locke dans les années 1670-1680 en faveur de la tolérance, une lettre sur la tolérance, un essai sur la tolérance. On retrouve tout cela dans le texte de Diderot. Et d'autant plus, m'a-t-il semblé, que dans cet article, il dit mal se comporter, ne pas tolérer et soulever les hommes et armer les nations, c'est impie. Or, la notion d'impiété, ça n'a pas beaucoup de sens pour Diderot. Ça en a beaucoup pour Locke. Et là, il parle, au fond, comme un philosophe qui a combattu l'intolérance. Caroline Jacot-Grappa.
Oui, et puis dans ce texte, en plus, c'est une sorte de leitmotiv. Enfin, il revient, il dit toujours
c'est impie. C'est pas son vocabulaire ordinaire.
C'est pas son vocabulaire, et en même temps, il renvoie une image, justement, du langage employé par ses adversaires, enfin, qu'il utilise et qu'il s'approprie de manière ironique aussi. Enfin, ironique, pas au sens où... enfin, ce qu'il est en train de dire, il est extrêmement sérieux sur ce qu'il est en train de dire, mais au sens où il retourne le langage contre eux, en fait. Enfin, contre des usages... impie, insupportable, voilà, de la violence, de l'intolérance, du fait de croire qu'on a raison contre tout, etc. Enfin,
Et est-ce que vous diriez aussi, par exemple, que dans l'article sur la torture,
on entend le legs de l'italien Cesare Beccaria, auteur en 1764 du traité des délits et des peines, et qui explique comment il faut traiter les criminels, les prisonniers, pas de torture, etc. Est-ce qu'il y a cette porosité à toute la vie intellectuelle européenne des deux derniers siècles?
Bien sûr. Alors... Bon, pour la torture, enfin, il y a d'autres articles qui sont un peu plus surprenants, disons, sur ce point-là, parce que par exemple dans l'article animal, Diderot imagine qu'on va pouvoir utiliser, enfin, des condamnés à mort pour faire certaines expériences. Donc, enfin, bon, il y a des, enfin, ça se situe dans un contexte un peu particulier. Mais non, bien sûr que, donc, oui, bien sûr qu'il y a cette porosité permanente, mais à toutes sortes, à toutes formes. Enfin, non seulement des formes de pensée, mais aussi des inventions aussi, parce que il y a des articles sur les automates de Vaucanson. Enfin, donc ça va d'un extrême à l'autre. Oui.
Et puis il y a une chose totalement neuve, enfin, très engagée contre l'esclavage, contre la colonisation, un article extraordinaire pour l'époque et qui s'intitule d'ailleurs, je crois, très, oui, je vais vous laisser l'expliquer, Marie-Loca Thiomis, l'article écrit par Jaucourt pour le coup.
Mais Jaucourt a été un des premiers abolitionnistes, enfin. Qui écrit un texte abolitionniste. Un bouquin formidable que je conseille à tous de lire, qui est le livre de Jean Hérard, qui s'appelle « Lumière et esclavage », qui revient sur toute cette fameuse question de l'esclavage, etc. Et c'est qui est un débat essentiel de l'époque. Et il faut vraiment lire ça, parce que on entend dire, on a reçu encore récemment quelqu'un qui nous disait, mais enfin, ces encyclopédies, ils étaient peut-être très sympathiques, etc., mais quand même, ils défendaient l'esclavage.
C'est pas vrai. Nègre est un article incroyable.
Oui, oui, oui. Qui
dénonce. Mais il faut,
oui, oui, oui. Mais il y a de tout dans l'encyclopédie.
Ah, d'accord.
Voilà. Et ils ont aussi demandé à Leromain, qui était un administrateur colonial, d'écrire un certain nombre d'articles sur le commerce. C'est des articles de commerce, c'est le commerce des Noirs, des Nègres, etc. Bon, donc vous trouvez tout dans l'encyclopédie, ça ne veut pas dire du tout, et c'est très important de le comprendre. Il y a des catholiques fervents qui écrivent dans l'encyclopédie. Il y a des protestants tout aussi fervents, comme Jaucourt, par exemple. Il y a des matérialistes athées, comme Diderot, vous le savez très bien, etc.
Elvétius.
Donc, il y a... oui, Helvétius n'écrit pas. Il y a Dolbach.
Dolbach, pardon. Dolbach.
Voilà.
Oui, Dolbach,
oui. Mais donc, il y a une extraordinaire polyphonie dans l'encyclopédie. Alors ensuite, évidemment, puisque nous pensons les choses dans l'histoire, nous essayons de réfléchir à ce qui demeure de l'encyclopédie. Si vous avez cité ces articles, ce n'est pas par hasard, comme Fèvre le disait tout à l'heure, hein, c'est ce qui demeure de plus important dans l'encyclopédie. C'est le moment où elle transforme, où elle traverse les débats de l'époque, où elle annonce tout autre chose. Mais si on pense à l'ouvrage tel qu'il a été écrit à l'époque, il réunit des savoirs et donc des opinions très différentes. Donc vous avez raison pour Jaucourt, c'est le premier abolitionniste.
Oui,
et c'est la révolution de
4...
Pardon,
la fibre anticolonialiste. C'est vrai que moi, j'avais cette idée... Aujourd'hui, on fait beaucoup le procès d'une conscience européenne qui s'est très, très bien accommodée du colonialisme. Beaucoup s'en sont effectivement très bien accommodés. Mais il faut rappeler que dans l'encyclopédie, en préparant cette émission à travers vos travaux, il y a une fibre déjà très anticolonialiste,
tout à fait.
Anti-impérialiste,
tout
anti-esclavagiste. Enfin,
vous avez absolument raison. Et très largement d'ailleurs, si je peux me permettre de le dire, c'est très largement dans le propos de Diderot et de Jaucourt que l'on rencontre ce type de réflexion. Il y a des points de vue qui sont différents. C'est pourquoi, je vous dis, on a reçu il n'y a pas très longtemps une lettre assez affligée de quelqu'un qui nous disait, mais enfin, je suis tombé sur un article où il dit que les nègres sont assez bêtes et que c'est pour ça qu'ils sont en esclavage. Bon, c'est vrai. Et ça, c'est Leromain qui écrit cette monstruosité à nos
Donc
yeux.
Ça existe dans l'encyclopédie.
Oui, c'est bien pour ça que je vous en parle. Hein, pour vous dire que c'est polyphonique. Mais ce que montre Jean Hérard dans son livre si passionnant, c'est que l'Europe est esclavagiste à l'époque. Il n'y a aucune difficulté à se préoccuper. Pourquoi ? Parce que l'Europe connaît encore le servage, elle connaît l'enrôlement de force, elle connaît la pratique du fouet dans les armées, etc. Donc, qu'il y ait quelque part des gens qu'on transporte pour les faire travailler ailleurs, n'est pas plus choquant qu'autre chose. Et c'est grâce à des gens comme Diderot, dans l'histoire des deux Indes, à Jaucourt, notamment, etc., et à Montesquieu, à Voltaire, qu'on entendra enfin dire qu'il y a là quelque chose de monstrueux qui s'appelle l'esclavage. Et qu'on aboutira en 1794, par la Révolution, au moment de la Révolution, à l'abolition de l'esclavage. Mais c'est tout un combat, voyez. On ne peut pas figer l'encyclopédie en disant « Ah, ça n'existe
c'est
pas. »
C'est très clair, là, votre explication, je trouve, est précieuse.
Tant mieux, merci.
En ce moment. Parlons juste pour finir de ce qu'il reste à découvrir. Il reste des articles, des notes de Diderot qui n'ont pas été publiées, c'est vrai ?
Non.
1300 articles, oui. Vous avez trouvés ?
Oui. Oui, je les ai trouvés, mais peut-être que c'est... Enfin, si vous voulez, on peut en parler, mais j'aimerais... Bon, ça n'a pas été publié.
Temps,
si,
oui.
Ça a été publié dans l'encyclopédie, mais anonymement. Donc personne ne les a lus. Puisqu'il n'y avait pas la signature de Diderot. Diderot n'a plus rien signé à partir du tome 10, tome 9. Voilà. Donc, tout le monde pouvait les lire, mais personne ne les lisait particulièrement, et notamment nous les arrière-neveux, là, lointains, nous ne les connaissions pas.
Dernier mot, oui, je vous en prie.
Oui, vous permettez, je voulais juste vous dire une chose. Il y a quelqu'un qui a compris à quel point l'encyclopédie de Diderot était essentielle pour comprendre Diderot. C'est, aussi curieux que ça puisse vous paraître, c'est celui qui est devenu son ennemi par la suite, c'est Rousseau. Rousseau écrit de Diderot, ce génie étonnant, universel, unique en son temps, et dont son siècle ignore le prix. Voilà, quand il parle de Diderot, encyclopédiste.
Pour clore cet épisode de notre série Diderot sur l'encyclopédie, vous entendez The Knowledge, une chanson de Janet Jackson de 1989. Je vous propose à présent d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il nous parle du plaisir, de ses différents degrés. Voici le pourquoi du comment.
Comment Spinoza parvient-il à la joie ? Dans l'histoire de la philosophie, on distingue souvent deux notions, le plaisir et la joie. Et dans les philosophies de la joie, on évoque souvent, et à raison, celle de Spinoza, l'éthique de Spinoza, qui se conclut en effet sur une découverte fondamentale à laquelle tout le livre conduit, qui est celle non seulement de la joie d'ailleurs, mais de la béatitude, car il y a plusieurs termes latins pour désigner la joie dans l'éthique de Spinoza, et le plus élevé d'entre eux, c'est la béatitude qui est fondée par sur l'amour intellectuel de Dieu et qui a quelque chose de définitif, qui fournirait le bonheur définitif à l'être humain contre toutes sortes de tristesses, toutes sortes de souffrances et toutes sortes de malheurs. Cette béatitude dont il dit d'ailleurs dans une formule finale énigmatique qu'elle est difficile et rare car tout ce qui est beau est difficile autant que rare. Mais pour parvenir à la béatitude, le mot important justement étant ce verbe parvenir, il faut justement tout le travail de l'éthique de Spinoza. Et au fond, si la béatitude est difficile, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui s'oppose à elle en nous. C'est parce que la joie elle-même, en tant qu'elle n'est plus seulement un plaisir parmi d'autres, quelque chose qui vient satisfaire une de nos souffrances, mais le plaisir total, quelque chose qui vient satisfaire l'ensemble de notre être, eh bien la joie elle-même a un contraire. Il y a quelque chose en nous qui résiste à la joie. Et si on oublie qu'il y a chez Spinoza cette polarité de la joie d'un côté et de quelque chose qui y résiste, on oublie toute l'éthique de Spinoza lui-même, le fondement du négatif dans l'éthique de Spinoza, auquel le positif et même la joie suprême doit continuer à s'opposer. On oublie ce qui fait de la philosophie de la vie de Spinoza un travail profondément critique et je dirais même une sorte de vitalisme critique. Pour le comprendre, il faut se rapporter à un autre moment de l'éthique de Spinoza, la définition d'une forme plus modeste de joie, non pas la béatitude, beatitudo, ce qui nous rend béat, le bonheur mystique, en quelque sorte repris par l'éthique de Spinoza, mais une joie toute humaine, ce qu'il appelle en latin laetitia, le contraire de tristitia, la petite joie quotidienne, la bonne humeur, disons, le petit plaisir en apparence, l'allégresse aussi, comme on peut le traduire, comme le traduisent certains traducteurs parfois, parce qu'il y a toutes ces notions qui apparaissent ce vocabulaire du plaisir, du positif et finalement de la joie ou de la béatitude ultime. Or, comment Spinoza définit-il la joie, la petite joie dont je viens de parler ? Je cite « La joie est le passage de l'homme d'une moindre perfection à une plus grande. » Et dans son explication de cette définition dans le livre 3 de l'éthique, Spinoza commente « Je dis passage ». Écrit-il, car la joie n'est pas la perfection elle-même. Si en effet l'homme naissait avec la perfection à laquelle il passe, c'est sans affect de joie qu'il la posséderait. Ainsi, la joie n'est pas dans le plaisir positif lui-même, n'est pas dans la perfection. Elle est dans la découverte de la perfection à partir de son absence, à partir de son manque, à partir de la tristesse elle-même. La joie, c'est le passage du négatif au positif, c'est le passage de la souffrance à sa cessation et même à une satisfaction. Et donc, la joie, c'est dans le passage, dans la différence, dans la résistance à son contraire qu'on la trouve. Je dis passage, dit Spinoza. Ainsi, la force de l'éthique de Spinoza, c'est plutôt de nous montrer une polarité, une ambivalence de la joie et de la tristesse, et finalement même de la béatitude et de tout ce qui s'y oppose dans nos vies. Le plaisir, quel que soit son degré, a toujours un contraire et toujours le résultat d'une lutte et d'une conquête. Mais quand il se donne, ce n'est pas seulement négativement, c'est positivement, admirablement, définitivement.
Merci Frédéric Worms, merci à Marie Leucate-Siomis et à Caroline Jacot-Grappa qui ont été nos invités aujourd'hui pour évoquer l'encyclopédie de Diderot, d'Alembert, puis Jaucourt. Cette émission a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Axel Dubois, Chaïma Giboire, Anna Fulpin, Lila Bozès et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.
Se préparer au grand oral du bac. Prendre la parole en public, défendre ses arguments lors d'un débat, déclarer sa flamme. Bien parler et savoir se faire entendre, ça s'apprend.
J'essaye de transmettre, par des livres ou par des enseignements, ce que j'ai appris en matière de prise de parole en public.
Ma parole, entraînez-vous à l'art de bien parler avec Bertrand Perrier, réalisé par François Test sur franceculture.fr et l'application Radio France.